Vous écoutez On lit pour vous.
L'île au trésor, un texte de Gary Laurence paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité. Anticosti figure maintenant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-elle prête à accueillir les visiteurs? Les fossiles exceptionnels dont regorge l'île d'Anticosti forment les exemples les plus diversifiés et les mieux préservés sur Terre de la vie marine disparue lors de la première extinction massive il y a environ 445 millions d'années. Une particularité qui a valu à la plus grande île du Québec d'être ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 19 septembre dernier. Du jour au lendemain, Anticosti est donc apparu sur l'écran radar de bien des voyageurs. Mais de là à y voir atterrir des hordes de visiteurs, il y a un détroit à franchir. Car si l'île est attrayante à maints égards, elle est aussi difficile d'accès. Hormis le Bella des Gagnés, le navire ravitailleur qui y accoste une fois par semaine, seuls de petits avions relient l'île au continent. Mais le frein principal demeure la capacité d'hébergement. Elle n'atteint même pas 100 personnes et une partie de l'offre est monopolisée par les chasseurs et les pêcheurs. Dans un premier temps, la mairesse de l'île d'Anticosti, Hélène Boulanger, songe donc à construire un hôtel sur les ruines du château Meunier qui a brûlé en 1953. Avant d'ajouter des hébergements, il y a cependant fort à faire. Citation : Le plan d'urbanisme est à refaire et nous sommes aux prises avec un avis d'ébullition de l'eau depuis 20 ans, dit-elle. Au moins, cette désignation va nous permettre de moderniser la municipalité et j'ai bon espoir d'obtenir des fonds de la part du gouvernement. » Fin de citation. Une fois cela réglé, la mairesse envisage la mise en place d'un traversier, minimum 5h30 de traversée depuis Havre-Saint-Pierre, un projet qui nécessitera lui aussi l'aide de l'État. Difficile de prévoir le nombre de visiteurs qui seront au rendez-vous. Citation. Aucune étude scientifique n'est venue démontrer qu'il y avait un lien direct entre la désignation d'un site par l'UNESCO et une hausse du tourisme, sauf une contestée. Fin de citation, assure Laurent Bourdeau, professeur de géographie à l'Université Laval et représentant de l'établissement à UNITWIN UNESCO Culture Tourisme Développement, un réseau international d'universités qui soutient le travail de l'UNESCO. Même si l'inscription sur la liste peut attirer l'attention, d'autres facteurs doivent ensuite entrer en scène pour susciter un intérêt accru. Ainsi, si certains sites sont esthétiquement impressionnants, le Vieux-Québec, Dubrovnik, etc., d'autres comme le site fossilifère de Migacha, en Gaspésie, sont visuellement moins remarquables. Citation : La désignation de Migacha en 1999 a augmenté l'achalandage sans pour autant représenter un déferlement ingérable de visiteurs. Fin de citation, affirme Simon Boivin, porte-parole de la CEPAC, qui gère aussi le Parc national d'Anticosti. Pour bien encadrer le développement du tourisme, un OSBL, Destination Anticosti, verra le jour d'ici quelques mois. On pense évidemment aux activités déjà mises en valeur par la CEPAC, comme la randonnée pédestre, tandis qu'Anticosti et Côtour organisent notamment des visites de l'île, des excursions en mer et des safaris photos. Mais on pourrait aussi penser à des sorties à vélo tout-terrain sur les chemins forestiers ou sur certaines plages. Tourisme Côte-Nord, qui a pour mission de promouvoir la région, aimerait également inciter les visiteurs à passer du temps sur le continent avant ou après leur séjour à Anticosti. Citation : L'archipel de Mingan et le tourisme autochtone, avec nos 9 communautés, sont à considérer. Fin de citation, dit Joanie Franqueur-Côté, directrice générale de l'organisme. Une chose est sûre, c'est que la géologie d'Anticosti attirera de plus en plus de scientifiques qui viendront étudier les traces d'une extinction massive, probablement survenue en raison de changements climatiques brutaux. Comme si, du fond des âges, par sa désignation, Anticosti faisait ressurgir dans l'actualité ce témoignage du passé. C'était « L'île au trésor », un texte de Gary Laurence paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité.
5 conseils au nouveau papa de 2024, un texte de Véronique Larocque, paru le 14 janvier 2024 dans la presse. Samuel Tremblay et Maxime Pearson ne sont pas des super papas à la maison. On est juste le reflet des pères de notre génération. Paru l'automne dernier, leur livre « Papa, lève-toi » est un plaidoyer pour l'engagement paternel rédigé avec une bonne dose d'humour. La presse a demandé au duo 5 conseils pour les hommes qui accueilleront un bébé cette année. Faites-vous confiance. On a la chance au Québec d'être à l'avant-garde. Les pères québécois prennent plus de congés qu'ailleurs, sont plus engagés qu'ailleurs, sont plus investis qu'ailleurs. Il y a un énorme bout de chemin qui a été fait, mais on vit encore dans une société où plusieurs personnes pensent que le parent le mieux outillé pour s'occuper des enfants, c'est la maman, affirme Samuel Tremblay, père de 3 enfants. Pour les gars, ça vient avec le risque de se laisser convaincre qu'on est condamné à jouer les seconds violons. Or, le duo qui tient le blog Nouveau Père depuis 2018 souligne qu'au-delà de certaines compétences biologiques comme porter un enfant, accoucher et allaiter, les hommes ont toutes les compétences nécessaires pour prendre soin des enfants du jour 1 jusqu'à la fin. Réfléchissez à la place qu'occupe votre travail. Le message que de plus en plus d'hommes de notre génération tiennent, c'est que la famille, c'est leur priorité, souligne Maxime Pearson. Or, ce discours ne se reflète pas toujours dans la réalité, ajoute le père de 2 enfants. Quand tu regardes la semaine normale d'un papa, il y a encore énormément de temps consacré au travail rémunéré. Plus que les mamans. On doit repenser cette relation face au travail afin de ramener un équilibre plus grand dans les familles, rebondit son co-auteur et ami de longue date. Ça paraît simple, mais dans les faits, ça peut être compliqué. Entre gars, on valorise encore beaucoup celui qui travaille fort, le gars qui fait de l'argent, souligne Maxime Pearson. Selon le duo, le mieux est de s'imposer des limites et de les respecter, par exemple, en ce qui concerne le nombre d'heures passées au boulot. N'oubliez pas les autres plaisirs de la vie. Tout comme il faut protéger son temps en famille du travail, il faut aussi protéger toutes les autres sphères de sa vie du fait de juste être un parent, pense Maxime Pearson. La naissance d'un enfant ne devrait pas sonner le glas des sorties en amoureux, des journées entre amis, de la pratique de son sport favori. Il y a le piège de trop s'isoler dans le rôle de parent et de faire le deuil de trop de choses qui vous définissent comme personne et qui font partie de votre équation du bonheur, ajoute-t-il. Voyager, manger au restaurant, aller dans un festival, toutes ces activités n'ont pas à s'arrêter le jour où l'on devient parent. Prenez un long congé parental. Prendre ces 5 semaines de congé de paternité offertes par le régime québécois d'assurance parentale, RQAP, c'est bien. Mais oser partager les 32 semaines de congé parental entre la mère et le père, c'est encore mieux, croient les 2 auteurs. Ce sont des moments uniques qui ne repasseront pas. On va tous travailler 35-40 ans dans nos vies. Prendre cette pause-là à l'arrivée de nos enfants, ce sont des moments incroyables, affirme Samuel Tremblay, qui a pris 8 semaines de congé parental après la naissance de sa dernière fille en 2022. Non seulement cela contribue à bâtir la relation avec le poupon, mais ça entraîne des effets positifs sur le couple. Ça permet de comprendre davantage la réalité de la mère, note-t-il. Discuter de la charge mentale. Les discussions sur la charge mentale sont souvent très clivées, observe Samuel Tremblay. D'un côté, des mères qui sont à bout, parfois avec raison, et qui vont accuser les gars de tous les torts. De l'autre, des gars qui sont complètement dans le déni, décrit l'auteur. Mais on n'a pas à trouver de coupable à tout prix, poursuit-il. Je pense qu'on doit trouver des façons de se comprendre et de se partager cette charge mentale. Et pour y arriver, à ses yeux, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut reconnaître l'existence de la charge mentale, souvent plus grande pour les femmes, et discuter en couple de ce qu'on peut faire pour mieux la diviser, et même en soustraire une partie. Parfois, tu peux aussi être l'acteur rationnel qui identifie des sources de stress inutiles, soulignent d'ailleurs les auteurs, dans leur livre qui, bien qu'il s'adresse aux hommes, s'avère être une lecture fort instructive et divertissante pour les mères également. C'était 5 conseils au nouveau papa de 2024, un texte de Véronique Larocque, paru le 14 janvier 2024 dans la presse.
L'éléphant dans la classe, un texte de Stéphanie Grandmont, paru le 12 décembre 2023 dans la presse. Fermez les yeux et imaginez un instant que la classe d'une école publique du Québec est un cours de ski alpin. Dans son groupe, le professeur a des enfants incapables de faire du chasse-neige autant que des petits champions qui veulent faire des bosses. Il a aussi un enfant sur le spectre de l'autisme, un autre ayant un handicap physique, un jeune avec un trouble de comportement grave, un autre qui vient d'arriver au Québec et ne parle pas la langue. Avec un groupe aussi hétéroclite, les dérapages sont assurés. Personne n'y trouvera son compte, ce qui poussera le professeur découragé à accrocher son manteau. Revenons maintenant au réseau scolaire, où le nombre d'élèves en difficulté a explosé de 103 000 en 2000 à 258 000 aujourd'hui. Parallèlement, le Québec a vidé les classes spécialisées pour intégrer les jeunes en difficulté dans les classes ordinaires, poursuivant un objectif louable d'équité et d'intégration sociale. Or, les ressources spécialisées, psychologues, orthopédagogues, orthophonistes, n'ont pas suivi. Et les professeurs se retrouvent avec une charge impossible. Comment voulez-vous qu'une enseignante s'en sorte avec 20 élèves qui ont des plans d'intervention spécialisés dans une classe de 34 jeunes de 4e secondaire? Malgré tous ses efforts, toute sa passion, une quinzaine sont en échec au premier bulletin. Posons-nous la question. Est-ce qu'on rend service à nos enfants en les mettant tous ensemble dans le même bateau? Les enfants qui vont bien restent sur leur faim, ceux qui en arrachent n'obtiennent pas le soutien voulu. À preuve, seulement 29% des parents d'élèves possédant un code de difficulté se disent satisfaits des mesures mises en place pour soutenir leur enfant, selon un sondage de la Fédération des comités de parents du Québec. Et l'inclusion à tout prix, ça tue à petit feu les enseignants qui ne sont pas formés pour s'occuper d'autant de cas différents. Certains ont l'impression d'être comme à l'hôpital, en pleine pandémie, et d'avoir à choisir à qui donner le respirateur. L'intégration des élèves en difficulté, c'est l'éléphant dans la classe. C'est le véritable enjeu qui mine le système d'éducation, et c'est aussi le nœud des négociations actuelles avec les enseignants. Il est temps de revoir notre politique d'adaptation scolaire, mais comment ? Réduire les ratios enseignants-élèves en tenant mieux compte des élèves en difficulté? Prévoir davantage d'aides spécialisées pour épauler les professeurs? Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il serait plus réaliste de créer davantage de classes spécialisées pour les jeunes en difficulté afin d'éviter d'éparpiller les rares ressources à travers le réseau. En fait, on pourrait favoriser l'inclusion dans l'école, mais la spécialisation dans la classe. Ainsi, tous les élèves auraient accès aux mêmes activités parascolaires, sportives, culturelles. Mais ils seraient regroupés en petites classes pour certains cours et d'autres non, selon une approche modulaire. Ce modèle favoriserait la mixité tout en optimisant l'apprentissage en fonction des besoins de chacun. Centraliser l'aide est la meilleure façon d'alléger la tâche des professeurs tout en offrant aux jeunes l'aide nécessaire. Les écoles privées doivent aussi faire partie de la solution, mais il est trop facile de leur mettre tous les torts sur le dos en les accusant d'écrémer le réseau public des meilleurs élèves. En réalité, les écoles publiques ne s'en tirent pas mieux dans les régions où il n'y a pas d'écoles privées. Reste que les écoles privées doivent en faire davantage pour intégrer les jeunes en difficulté. Actuellement, les élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, EHDAA, représentent 17 % de leurs effectifs par rapport à 24 % du côté public. Si on veut que les écoles privées offrent des services adéquats, encore faut-il que Québec leur accorde du financement spécifique pour les élèves EHDAA, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Déjà, les mentalités changent. Près de 90 % des élèves qui entrent au privé y font tout leur secondaire, contre seulement 70 % au début des années 2000, estime la Fédération des établissements d'enseignement privé. Tant mieux, car il est inacceptable que les écoles privées larguent en cours de route les jeunes qui ont des problèmes de comportement ou qui peinent à suivre le programme. Au lieu de prendre leurs responsabilités, elles pèlent le problème vers le public qui doit accepter tous les élèves. Elles ont accepté ces jeunes, qu'elles les accompagnent jusqu'au bout. L'important, c'est que les jeunes en difficulté aient véritablement des services où qu'ils soient. De grâce, évitons d'ajouter de nouveaux codes qui déterminent le financement des élèves en difficulté, une enveloppe de 3,4 milliards par année, ce qui peut mener à des surdiagnostics. Tous ces diagnostics monopolisent les experts qui font tellement défaut et coûtent des milliers de dollars aux parents qui doivent très souvent recourir au privé, ce qui crée un système à deux vitesses malsain. D'abord et avant tout, les jeunes ont besoin d'aide, pas d'une étiquette. La position de la presse, l'intégration des élèves en difficulté, c'est l'éléphant dans la classe. Il est temps de revoir notre politique d'adaptation scolaire en misant davantage sur les classes spécialisées. C'était « L'éléphant dans la classe », un texte de Stéphanie Grandmont, paru le 12 décembre 2023 dans la presse.
Mal de langue, un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité. L'insécurité linguistique, c'est douloureux. Deux Acadiens ont documenté le phénomène. Pour bien des Québécois, la notion d'insécurité linguistique exprime la crainte de l'envahissement par l'anglais. Mais les sociolinguistes la définissent autrement. C'est l'impression douloureuse d'être inadéquat, voire incompétent dans sa langue maternelle, parce que son accent ou son vocabulaire ne correspondent pas à ce que la norme valorise. Un phénomène universel. Au Canada, ce sentiment est particulièrement intense chez les francophones hors Québec. Citation : On peut être à la fois très fier et très honteux de qui on est, et c'est le fruit de générations de dénigrement. Fin de citation, dit l'acteur acadien Gabriel Robichaud. Avec la comédienne Bianca Richard, elle aussi acadienne, il explore ce phénomène dans le documentaire « Parler mal » sorti l'automne dernier et offert sur la plateforme ici-tout.tv. Citation « J'ai longtemps appelé ça mon complexe d'infériorité linguistique. » Fin de citation, raconte Bianca Richard. Les deux artistes du Nouveau-Brunswick travaillent depuis 2019 sur « Parler mal », dont la première mouture a été une série balado produite par Radio-Canada Acadie. Citation « J'ai appris à parler posément d'un sujet qui m'enrage au plus profond de moi-même. On a cherché à comprendre pourquoi ça fait si mal. » Fin de citation. Le balado examinait le problème en Acadie. Citation « Pour le documentaire, on a voulu voir comment cela se manifeste ailleurs au Canada. » Fin de citation explique la productrice Suzette Lagacé de Moses Productions qui a co-scénarisé le film de 52 minutes avec le réalisateur Étienne Boivin. Parler mal nous emmène à la rencontre d'élèves du secondaire en Alberta et en Ontario, mais aussi de créateurs, d'enseignants, d'universitaires et même d'un académicien, Danny Laferrière. Citation « Ce qui m'a le plus surprise, c'est la passion autour du sujet », dit Suzette Lagacé. « Tous ceux qui visionnent le documentaire ont quelque chose à dire ». Fin de citation. La question n'est pas qu'émotive, elle est existentielle car l'insécurité linguistique engendre le silence et l'assimilation. Cela revient souvent dans le film. Hors du Québec, bien des francophones qui n'en peuvent plus d'être jugés trouvent plus simple d'exister en anglais. Citation. « Je me suis souvent tue », admet Bianca Richard. Le silence individuel, c'est triste, mais quand ça touche toute une collectivité, l'effet est plus gros que ce que j'avais pu croire au départ. Fin de citation. Parler mal se conclut toutefois sur une note optimiste. Ce complexe se surmonte par l'éducation et la création. Selon Daniel Laferrière, il faut cesser d'imaginer une obscure police de la langue. Citation. Tous les accents font partie de la musicalité de la langue. Il est impossible de parler mal. Fin de citation, croit-il. L'école, en particulier, doit arrêter de dire aux élèves que tel mot ou tel accent est mauvais, d'après la linguiste québécoise Anne-Marie Baudouin-Bégin, interviewée dans le film. Elle reconnaît cependant que, citation, tout ne se vaut pas. Il faut pouvoir montrer aux jeunes quels mots et quels accents conviennent dans quelle situation. Fin de citation. Des expressions québécoises parfaitement correctes, comme « attache ta tuque », peuvent susciter des réactions dans un contexte officiel. Parler mal nous fait découvrir des créateurs qui jouent avec leur langue, comme le chanteur et poète néo-écossais Eric Dow ou Nicholas Hyatt et Jane Chan de l'ensemble électroacoustique Parler bien, qui compose à partir d'échantillons du parler franco-ontarien. Citation. La création ouvre un espace où la langue est utile et nécessaire. Fin de citation, affirme Gabriel Robichaud, qui prépare avec Bianca Richard une pièce de théâtre documentaire sur le sujet. Citation. Elle devient un outil d'affranchissement et de légitimation. Fin de citation. C'était Mal de langue, un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité.
Fibromyalgie, soulager sa douleur comme on peut. Un texte d'Annie Labrecque, paru le 20 décembre 2023 dans le magazine Québec Science. Une étude québécoise montre un écart entre les médicaments recommandés et ceux réellement utilisés pour atténuer la douleur chez les individus atteints de fibromyalgie. Une équipe québécoise s'est penchée sur les médicaments utilisés pour gérer la douleur chronique chez les personnes souffrant de fibromyalgie, une maladie du système nerveux central qui engendre une douleur considérable dans une ou plusieurs parties du corps. Il y a une différence marquée entre les recommandations médicales et ce que les personnes nous ont rapporté prendre comme médicaments, constate Gwenaëlle de Clifford-Faugère, chercheuse à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, et auteure de l'étude publiée dans Canadian Journal of Pain. Elle ajoute qu'une proportion significative des 63 personnes interrogées, en majorité des femmes, déclare consommer des opioïdes, 33 % des répondants, des anti-inflammatoires prescrits ou non, tels l'ibuprofène, 54 % et du cannabis médical, 34,9 %. Pourtant, selon la chercheuse de l'UQAT, il n'existe pas suffisamment de données scientifiques sur l'efficacité de ces médicaments à soulager la douleur associée à la fibromyalgie. En ce qui concerne les médicaments qui sont recommandés pour le traitement de la maladie, les participants et participantes à l'étude mentionnent consommer des antidépresseurs, 55,6 %, des anticonvulsivants, 36,5 % du groupe, et du tramadol, un opioïde synthétique, 23,5 %. Qu'est-ce qui explique l'écart entre les médicaments recommandés et ceux réellement pris? L'étude révèle que plusieurs personnes se tournent vers des médicaments en vente libre, notamment quand les médicaments prescrits ne suffisent pas. C'est probablement parce qu'ils ne sont pas soulagés. Par exemple, le Tylenol, consommé par 73 % des personnes, est facile d'accès et sans prescription. Cependant, cela n'est pas sans danger d'en prendre sur une période prolongée, met en garde Gwenaëlle de Clifford-Faugère. Les personnes incluses dans l'étude souffraient de douleurs chroniques depuis une période allant de 3 à 64 ans. La fibromyalgie, c'est avoir mal partout. L'impact de la maladie est énorme. Malheureusement, on ne réussit pas à offrir l'entièreté des services dont ils auraient besoin. On n'est pas capable de les guérir, contrairement à d'autres types de douleurs chroniques où là, ça répond bien à la médication. Se désole Anaïs Lacasse, professeure titulaire de la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique à l'UQAT, qui a aussi participé à l'étude. Gwenaëlle de Clifford-Faugère indique que la prise de médicaments varie aussi d'une personne à l'autre selon les comorbidités, soulignant du même coup la complexité du traitement de la fibromyalgie. Certaines personnes avaient à la fois de la fibromyalgie et de l'arthrite. C'est sûr que la médication sera plus complexe, rapporte la chercheuse. Par ailleurs, la douleur chronique, c'est-à-dire qui persiste plus de 3 mois, peut être déclenchée par divers problèmes de santé comme l'arthrose, les maux de dos et la fibromyalgie. La chercheuse Anaïs Lacasse souligne la nécessité d'un bon diagnostic. Un médicament recommandé pour la douleur chronique associée à une migraine peut différer de celui recommandé pour la douleur chronique provoquée par l'arthrose, par exemple. Prise en charge complexe. Les personnes qui souffrent de fibromyalgie se heurtent à plusieurs défis pendant leur parcours médical, du diagnostic au traitement. Il n'y a pas de diagnostic précis de la maladie. On doit y aller par exclusion, en éliminant des problèmes de santé qui pourraient mimer la fibromyalgie, signale Serge Marchand, professeur associé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Les centaines de patients que j'ai vus et qui souffrent de fibromyalgie me racontent tous la même chose. Ils sont obligés de voir 5, 6, 10 médecins avant d'obtenir un diagnostic, confie-t-il. Serge Marchand a mené plusieurs études selon lesquelles il pourrait exister plus d'un type de fibromyalgie. À mon avis, il n'y a pas une fibromyalgie, il y a des fibromyalgies, explique le chercheur, ce qui complexifie d'autant plus le traitement. La fibromyalgie touche davantage les femmes. Les études sur la fibromyalgie montrent que la maladie touche plus de femmes que d'hommes. On croit que cela est associé aux hormones sexuelles. La testostérone semble avoir un effet protecteur, souligne Serge Marchand, chercheur à l'Université de Sherbrooke. C'était « Fibromyalgie, soulager sa douleur comme on peut », un texte d'Annie Labrecque, paru le 20 décembre 2023 dans le magazine Québec Science.